Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC.
Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Morts.
C'est très important, la concurrence. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est meilleur.
Monsieur, vous êtes un con.
After Paris.
Thibaut Giangrande.
Salut mes Parisiens, comment ça va? Bienvenue dans l'After Paris, le podcast qui débat de l'actu du PSG toutes les semaines, dispo sur toutes les applis. N'oubliez pas de vous abonner. Équipe renforcée pour parler Ligue des Champions. Coach Courbis est là, bien sûr. Salut Roland.
Salut les amis.
Pierre Dorian. Salut Pierrot.
Salut à tous.
Présentateur du Super Moscato Show, mais supporter parisien avant tout, comme on dit.
Et oui, et en plus de ça, le jour de son anniversaire.
Et oui.
On te fait un gros bisou.
Bon anniversaire.
Le plus beau Pierrot. Cadeau, ce serait la qualif contre le Barça, hein.
Ce serait vraiment ça le plus beau cadeau, vraiment.
Bien sûr.
T'espères rien d'autre, ça... Ouais, t'es bien dans ta vie, du coup, ça veut dire.
Moi, je pensais qu'il allait nous dire d'aller au bout et de gagner cette Champions League, c'est la qualification contre le Barça.
Ouais, mais étape par étape. On commence comme ça.
Ah bon.
Et notre drôle de dame espagnole est là, Fred Hermel. Salut, Fredo.
Hola, chicos.
Salut, Fredo.
Et cumpleaños feliz, hein.
Ah, merci. Muchas gracias.
Wow. Et comment on dit en catalan, bon anniversaire?
Ben, je sais pas. Ouais. En fait, j'ai pas d'amis catalans, donc je leur souhaite jamais leurs anniversaires. Non, je déconne.
C'est la trêve et le moment idéal pour se projeter et réfléchir. Le match le plus important de la saison arrive très vite. Dans moins de 3 semaines, quart de finale aller de Ligue des Champions, ce sera le 10 avril, contre une équipe qui n'a plus perdu depuis 10 matchs. Comment battre le Barça? L'After Paris lance le match dès maintenant. Et je voudrais qu'on commence par un point calendrier. Parce que ça pourrait peut-être avoir son importance tant la différence est grande entre les deux clubs. Paris va jouer 3 matchs avant la Ligue des Champions. Marseille, à Marseille. Rennes en Coupe de France. Clermont et donc ensuite le Barça. Et Barcelone va jouer un seul match. Comment ça se fait, Fredo? Il n'y a que ce match juste après la trêve.
Parce qu'il y a la finale de la Coupe.
Donc,
il y a la finale de la Coupe. Okay. Donc,
qui est programmée le week-end, c'est ça?
Qui est programmée le week-end, donc le championnat s'arrête. Donc c'est l'Athletic Club de Bilbao contre Majorque. Et donc, ce week-end-là, il n'y a pas de match. Donc, ça fait une belle respiration hein, pour les Catalans. 10 jours de repos, c'est énorme quand même. Hein.
Bah ouais,
surtout quand on sait que physiquement, il y a eu quand même pas mal de petits pépins, etc. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de Xavi Hernandez.
Ça peut faire une diff, ça, Roland.
Une diff pourquoi? Mm-hmm. Si le Paris Saint-Germain avait l'obligation de gagner les points en championnat pour être champion ou pour être dans les 4 premiers, c'est-à-dire comme pour le Barça, je te dirais oui. Mais là, déjà, le retour après la coupure internationale dans un match à Marseille, je crois que ça sera la possibilité de faire encore une revue d'effectifs. Le match contre Clermont, ça peut être aussi un match qui permet de bien préparer.
Oui, mais la demi-finale, c'est le seul, parce que Marseille, tu peux pas faire, tu vas à Marseille.
Oui, non, mais il va mettre son équipe contre Marseille.
Rennes,
il va faire tourner contre Clermont, il y a aucun souci.
Voilà.
Ouais, donc pas un souci pour vous.
Pour moi, c'est pas du tout un problème le calendrier.
Par contre, le Paris Saint-Germain aurait 2 ou 3 points d'avance sur le second.
Okay.
Je parlerai pas de la même façon, mais là ils ont 12 points, ils sont tranquilles.
Très bien. Les forces en présence, les gars. Paris sera, on le sait, sans Hakimi qui est suspendu. Après, côté blessé. Marquinhos devrait revenir, mais on va rester très méfiant parce que ça fait un moment qu'il doit revenir, toujours touché au tendon là, selon les derniers communiqués. Qu'en sera-t-il pour le Barça, Fredo? Il y a des absents en ce moment. Est-ce qu'ils seront de retour pour le quart de finale aller?
Je pense que il y a deux gros inconnus, c'est Frankie de Jong, mais a priori ça devrait être bon parce qu'il avait une entorse à la cheville, donc ça se remet assez facilement. Pedri, c'est de nouveau une déchirure musculaire, et ça on sait très bien que c'est un joueur extrêmement fragile. Et puis coach le sait, hein, une déchirure musculaire, on sait jamais quand ça se remet vraiment, et il y a toujours une petite période de risque après une petite période de rechute.
Et quand
Pedri, c'est pas rien.
Ouais. La rechute, elle est plus grave que quand tu es blessé.
Exactement, exactement. Donc on va dire que De Jong, ça devrait être bon. Pedri, c'est la grosse incertitude.
Donc ça donnerait partons sans Pedri, on serait pas loin d'une équipe type quand même pour le Barça.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr.
Et derrière, il n'y a pas des absences derrière ?
Non, mais là, de toute façon, il y a le... aujourd'hui, tu sais, tu as le... l'équipe type, c'est avec le jeune Koubarsi qui est un phénomène. Okay. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a
et
une nouvelle
équipe
type.
Et l'arrière gauche, c'est qui ?
L'arrière gauche, ce sera Cancelo, qui était absent le week-end dernier, mais qui devrait être là.
Il n'y a pas tant d'absents.
Tu auras Koundé à droite, Cancelo à gauche, tu auras Araujo et Koubarsi en défense. Là, aujourd'hui, c'est la défense centrale type. Alors, Koubarsi, en début de saison, c'était pas la défense centrale type. Mm-hmm. Mais là, il est tellement bon qu'il a été convoqué par le sélectionneur espagnol. Donc, il a 16 ans. Mais il est très fort.
Il vient même d'avoir 17, je crois.
Il y a quelques jours, il est très très fort. Donc c'est impressionnant quand même. Hein. Donc là, à ce niveau-là, et Ter Stegen est totalement remis de ses problèmes de dos, qui lui avait fait perdre pas mal de matchs, et le retour a été un peu compliqué. Mais là, franchement, on l'a vu l'autre jour dans le match contre l'Atlético, on a retrouvé le grand Ter Stegen. Donc c'est vrai que au niveau défensif, le Barça qui avait eu de très gros problèmes cette saison. Par rapport à la saison dernière, là, ça fait 4 matchs de Liga de suite sans encaisser de but. Donc la défense n'est plus trop un problème pour le Barça. Mmh.
Et ça fait 10 matchs de suite sans perdre pour le Barça, qui retourne bien depuis d'ailleurs que Xavi à peu près a annoncé qu'il ne serait pas là la saison prochaine.
Bon, c'est la mode. Ouais,
Pierrot, coach, comment on fait pour battre ce Barça-là ? On a vu que ces dernières semaines, il y a eu sur des gros matchs des petites adaptations avec un Dembélé qui revient dans l'axe. Qu'est-ce que Luis Enrique doit faire ? Est-ce que on part sur l'équipe type, le 4-3-3. Comment faire pour face à ce Barça-là ?
Pour moi, prendre conscience que le Paris Saint-Germain avec Mbappé et sans Mbappé, c'est deux Paris Saint-Germain totalement différents, et faire tout pour que Mbappé ne se blesse pas en jouant déjà les deux matchs avec l'équipe de France, le match à Marseille, dont la gestion d'Mbappé, pour moi, sera quand même très importante, et il faut que le soit très prudente pour éviter qu'il se blesse.
Comment tu...
Donc soit c'est pas tactique, c'est Mbappé. Gères Mbappé. Non mais je comprends ce que tu dis, hein. Il y a pas de souci.
Et si par exemple tu gagnes la Champions League, comme c'est fort possible, puisque cette saison du Paris Saint-Germain ressemble un petit peu à la Côte d'Ivoire, je le dis et je le répète, mais ça sera en premier grâce à Mbappé.
Donc comment tu le gères Mbappé là sur tous les matchs d'avant ?
Mais déjà j'attends de voir un petit peu comment Didier va l'utiliser, et suivant comme il va l'utiliser, j'étais capable de le mettre qu'une mi-temps à Monaco, il démarrera pas à Marseille.
Ah ouais, tu le fais pas démarrer à Marseille. Moi, je crois qu'ils se sont mis d'accord pour que ce match-là fasse partie des quelques matchs où il est, entre guillemets, sûr de jouer et protégé.
Il faudra faire des signes de croix, et se dire si, par exemple, il joue deux matchs en trois jours avec l'équipe de France, enchaîner Marseille et après la demi-finale de la Coupe contre Rennes. Mmh. Si des fois il se touche les ischios parce que c'est quand même pas un extraterrestre, et de se dire merde, qu'est-ce qu'on a été con, là dans ce podcast on aura pensé à une certaine prudence.
Parce que le France-Chili il est mardi, hein, c'est ça, donc t'as 5 jours avant le Marseille-Paris
qui est le dimanche soir 20h45.
Moi je pense qu'il va le mettre et qu'il a des chances de jouer tout le match, hein. Et quand on le verra pas une minute peut-être contre Clermont. Mais je pense que c'est ça.
Et toi, comment tu le gérerais ?
Et la demi-finale contre Rennes, elle est avant ou après Clermont ?
Entre les deux.
Avant.
Avant Clermont.
Évidemment, Clermont, il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, les rivaux de Clermont pour le classement, ils ne seront pas contents, mais qu'est-ce que tu veux faire ?
Pierrot, comment tu gères Mbappé, toi ?
Je pense qu'il va jouer les 90 minutes contre Marseille et que contre Rennes, il va démarrer. Et selon le scénario, peut-être qu'il peut le sortir tôt dans la rencontre si jamais ça se passe bien. Et que contre Clermont, tu ne vas pas beaucoup le voir, voire pas du tout.
Non, mais ça, c'est ce que ferait Luis Enrique ou c'est ce que toi, fais. C'est la meilleure solution pour Paris.
Moi, en tant que supporter, je veux qu'il soit là contre Marseille, ça c'est sûr, certain. Et la demi-finale, où je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de marge sans Mbappé face à Rennes. Donc, j'aimerais bien le voir aussi,
Et d'un point de vue tactique, Mbappé évidemment dans cette rencontre, mais
Le Classico contre Marseille, avec l'importance du match contre le Barça, ça reste quand même toujours le même quand on est supporter.
Je pense.
Ah bon.
Ah bon.
Enfin, moi j'ai ma vision.
Paris-Marseille-Roland, ça reste le.
Madrid-Barça.
Paris-Marseille et Marseille-Paris, ok, mais là il y a Barça-Paris-Saint-Germain et Paris-Saint-Germain-Barça.
Ah oui, mais c'est 10 jours après.
Ah, mais, Ok.
Tu peux pas.
Non, mais les amis, il y a les questions, il y a les réponses. J'ai posé les questions, on m'a donné les réponses.
Oui, parce que Fredo,
je peux être surpris quand même.
Fredo, le Barça d'ailleurs qui affrontera le Real Madrid après le quart de finale retour face au PSG. Et là, pareil, il ne sera pas question de faire tourner ou quoi que ce soit. C'est ce que tu dis aussi.
Un classico sera toujours. C'est toujours essentiel, quoi. Voilà. Surtout que là, il y a un petit enjeu. Alors, même au niveau des points, l'avance du Real est quand même assez conséquente. Mais il y a toujours un petit enjeu dans la Liga. C'est pas totalement. C'est fait à 95% pour le Real. Ouais. Mais voilà, c'est pas totalement terminé. Mais là-dessus, je vais vous donner une opinion qu'on a à Madrid sur ce match entre le Barça et le Real. Il est dit que c'est la première rencontre, le premier grand match que Kylian Mbappé joue comme joueur du Real. Ah,
tu veux dire le Barça PSG, c'est le Barça PSG. C'est presque le premier classique.
C'est Barça Real
de Mbappé.
Mais vraiment, à un tel point que je suis persuadé, et c'est un sentiment que j'ai, mais lié avec tout ce qui me remonte de Madrid, c'est que l'intégration de Mbappé au Real sera d'autant plus facile que s'il a éliminé le Barça en marquant deux buts, quoi. Tu vois, c'est déjà, d'ailleurs, le grand journaliste Thomas Roncero, qui est le grand supporter officiel du Real dans la presse espagnole, présente Mbappé comme un joueur du Real actuellement prêt au Paris Saint-Germain. Non, mais faut voir ce match, il va être extrêmement suivi en Espagne. Et vraiment, et les madridistes vont être à fond derrière le PSG parce que c'est Mbappé et que Mbappé doit, parce que comme tout le monde sait qu'il va aller au Real, c'est son premier reto, son premier défi en tant que futur madridiste.
Alors justement, pour ce match face au Barça, ce quart de finale, Mbappé, Pierrot, c'est où? C'est à gauche? C'est dans l'axe? C'est avec qui à côté? Face au Barça, c'est quoi la meilleure solution?
Plutôt à gauche. Moi, je pense que contre le Barça, le Barça, je vais pas vous mentir, on va s'appuyer sur Fred. Moi, je les ai pas beaucoup regardés. Moi, je comprends pas comment cette équipe tourne pas rond avec les joueurs qu'elle a. Je sais pas, c'est Fred, mais j'ai l'impression que Xavi, ça va être une énorme pompe.
Je sais pas.
Moi, pour moi, ils ont
faut jamais dire ce genre de choses avant un quart de finale du
Champions. Non, ils ont un effectif 4 étoiles pour moi.
Depuis 10 matchs, c'est bon.
Ça va mieux, ouais.
Non mais ouais, c'est pas encore extraordinaire.
Pour moi, c'est un effectif qui est nettement au-dessus de celui du PSG. En revanche, pour moi, oui. Si tu parles de l'effectif, pas du jeu, hein. Oui. Mais
à quel poste?
À beaucoup de postes. Je pense que des De Jong et des Pedri, on les rêve, nous, à Paris. Je pense que même Cancelo, c'est un grand joueur. Cancelo, Joao Félix, excusez-moi, Lewandowski.
Joao Félix, il se motive deux fois dans l'année.
Peut-être, mais en termes de qualité pure, moi, j'adore. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas beaucoup vu jouer le Barça. Je m'étonne qu'il tourne pas mieux que ça. En revanche, si je me réfère à la culture foot du Barça, donc quand même une équipe qui a une certaine idée du ballon, de ce qu'on en fait, de la largeur du terrain, j'ai l'impression qu'il faut utiliser à merveille la vitesse de Dembélé et de Mbappé, que ça peut leur faire très très mal. Donc moi, je mettrais tous les deux sur les côtés. Donc plutôt Mbappé à gauche pour répondre à ta question.
Et tu mets qui au milieu?
Dans l'axe? En ce moment, Ramos, s'il veut mettre Colomouani, il mettra Colomouani. Ça ne me dérange pas. Mais
on verra d'ici là.
Mais oui, voilà. Ça pour moi, ça ne change pas tout fondamentalement. Pour répondre à ta première question, pour moi, c'est Mbappé à gauche, Dembélé à droite, pour leur faire mal.
Roland, Mbappé à gauche aussi, avec Dembélé et un numéro 9, quoi. C'est la meilleure manière pour le passer.
On verra donc Ramos, Colomouani. On va voir ce que fait aussi Colomouani. Il peut être utilisé en équipe de France. Donc, il y a beaucoup de deux matchs qui vont nous permettre un petit peu de regarder les situations. Et comme je le dis, quand il y a une coupure internationale, c'est la possibilité de se reposer, mais de se reposer pour ceux qui ne sont pas sélectionnés. Et quand, par exemple, tu joues deux matchs en trois jours et que tu vas jouer deux fois 90 minutes, vraisemblablement, si c'est le cas, il faut toucher du bois pour qu'il n'y ait pas quand même une élongation qui vienne emmerder.
Messieurs, vous savez, j'écoute votre discussion sur le positionnement de Mbappé. Il faut que ce soit secret jusqu'à la dernière minute.
Pourquoi?
Parce que le Barça risque de changer sa défense suivant le positionnement d'Mbappé.
Il s'adapterait, tu penses?
Ah ben complètement. Regardez ce qu'a fait Xavi.
C'est-à-dire, s'il joue à gauche, il mettrait qui à arrière droit?
Araujo il changerait. Et Koundé passerait dans l'axe. C'est ce qu'il a fait 90% du temps face à Vinicius lors des classicos.
D'accord. Parce qu'il est plus rapide.
C'est-à-dire que
les deux prendraient Mbappé en sandwich, non?
C'est-à-dire, je sais pas comment on peut prendre Mbappé. En tout cas,
c'est-à-dire que si par exemple tu as un Mbappé sur un côté, tu consolides quand même ton côté avec un arrière central beaucoup plus près de l'arrière droit.
Oui. Mais c'est surtout parce que Araujo est bien meilleur défenseur que Koundé.
Koundé qui a bien muselé Guevara quand même en huitième. Hein.
Oui.
C'est pas à la même vitesse, mais c'est un Mbappé. Sacré joueur.
Ouais.
Quand même.
Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est pourquoi le positionnement d'Mbappé va être quand même hyper important par rapport au choix que dans le jeu de bluff qu'il y a entre Luis Enrique et Xavi. Je pense que ça compte beaucoup, quoi. Parce que franchement, Koundé, c'est un bon joueur. Mais c'est pas Araujo au niveau défensif, quoi. Okay. Et on voit que le seul réel joueur qui a réussi à museler Mbappé, Vinicius, lors des Clasico, bah, c'est Araujo, quoi. Donc ça va être un élément essentiel dans la tactique.
Côté parisien, je le disais tout à l'heure, Hakimi pas là. Bon, Zaïre Emery à droite, il y a pas d'autre.
Oh non, moi j'aime pas. Moi, je veux dans le milieu de terrain.
C'est dommage. Bon, il peut jouer. Zaïre Emery, tu le mets même gardien de but, je pense qu'il serait capable de faire un bon match. Mais c'est sûr qu'au milieu, des milieux comme Zaïre Emery, il n'y en a pas beaucoup quand même.
Ouais, moi je préférerais qu'ils mettent un Mukiele, voire un Marquinhos, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Un défenseur à droite et puis un milieu. Enfin, c'est pas compliqué la vie. Hein.
Avec Luis Enrique.
Ça l'est parfois, oui.
Ça peut l'être. Ce serait qui en face parce que bon, on est sûr d'avoir Lewandowski. Lamine Yamal, et après, l'autre côté, c'est quoi? C'est Joao Félix, c'est Ferran Torres, c'est Rafinha?
Ferran Torres, il est blessé, là. Je pense que c'est plutôt Rafinha, parce que, franchement, il a été très bon contre Naples l'autre jour, Puis, Joao Félix est un joueur trop intermittent pour un match aussi important.
Le jeune, Lamine Yamal.
Lamine Yamal, oui, il va jouer.
Dans la zone des gauchers de Paris Saint-Germain, avec son geste de gaucher qui rentre dans l'intérieur sur les pieds droits des gauchers de Paris Saint-Germain, ça va être une zone compliquée où il faudra faire gaffe.
Donc une zone à assurer peut-être avec un Lucas Hernandez où tu pars avec Nuno Mendes titulaire.
Bonne question.
Ouais, qu'est-ce que tu fais, toi?
Sincèrement,
Luis Enrique, on sait pas ce qu'il va faire.
J'ai pas la réponse.
Ouais, t'hésites entre les deux.
Les réponses que je vais te donner tout le podcast, c'est que j'attends de voir ce qui se passe dans les matchs à venir avant ce match-là.
Pierrot.
Alors moi, je vais te dire, en tant que supporter, j'ai des obsessions. Ça, vous avez remarqué quand on parle du PSG dans la rédac. Non. Moi, ce PSG-là me frustre par sa qualité technique qui a redescendu d'un cran ou deux par rapport aux équipes précédentes, et je me désespère parfois de la qualité de sortie de balle. Raison pour laquelle Nuno Mendes me semble indispensable. Surtout que pour moi, le profil de cette équipe, c'est vraiment la vitesse. C'est-à-dire que tu dois plus jouer sur des transitions rapides avec Dembélé et Mbappé qui sont des dévoreurs d'espace qui n'attendent que ça.
Il reste le doute sur son physique à Nuno.
Ça va quand même un peu mieux. Ouais. Et d'autant plus qu'Hakimi étant suspendu, je pense que tu vas mettre un profil plus défensif à droite. Et donc, tu peux te permettre de mettre un Nuno Mendes à gauche. Moi, si tu veux, contre le Barça, j'aimerais bien voir Nuno à gauche, Vitinha en 6, parce qu'il a cette qualité technique pour sortir plus vite le ballon. Et aller vite jouer sur Mbappé et Dembélé.
Les deux arrières centraux?
Et les deux arrières centraux, je pense qu'Hernandez Marquinhos, c'est pas mal quand même. Après, Beraldo a la qualité technique pour sortir le ballon, mais est-ce qu'un gamin qui est arrivé du Brésil il y a 3 mois est capable d'élever son niveau de jeu à un quart de finale de Ligue des Champions? Je ne sais pas. Roland...
Il va avec son équipe nationale au Brésil?
Oui, mais ils jouent en Europe.
Ah, d'accord.
Mais tu sais, Roland, un peu comme toi, moi, j'ai pas toutes tes réponses pour une raison bien simple. C'est à la fois ce qui est très excitant et très inquiétant sur ce match, c'est que ce match va nous apporter beaucoup de réponses sur la qualité réelle, sur le niveau réel de ce PSG-là. Moi, pour l'heure, je ne sais pas si ce PSG-là a le niveau d'un quart de finale de Ligue des Champions face au Barça, parce qu'on l'a pas encore vu. Je dis pas qu'il l'a pas. Les matchs de poule ont été très compliqués en Ligue des Champions contre des Milan, Newcastle et Dortmund. Le PSG en Ligue 1 a de la marge. Je vais savoir beaucoup de choses là contre le Barça. Je vais savoir si tous ces mecs-là sont capables de d'hisser leur niveau de jeu. Et comme j'ai pas les réponses, j'aurai pas des réponses définitives à toutes tes questions, dans le podcast.
On attend avec impatience et curiosité aussi les choix de Luis Enrique.
Mais on en débattra la semaine d'après. La semaine d'après, le 10 avril. Merci les gars. On s'arrête là. Merci mon Fredo d'être passé.
Salut, avec plaisir.
Merci Pierrot. Merci coach. Bonne soirée.
Salut, salut.
Profite bien. On espère un bon cadeau pour toi. Merci à Jérôme en régie, à Toto également. Et merci à vous d'être là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'After Paris. Ciao.
RMC After Paris.